Bonjour Anne-Laure Chouin.
Bonjour Lucas, bonjour à tous. Nous irons à Caracas, au Venezuela, en début de ce journal. Le pays entame sa deuxième journée de grève générale à l'appel de l'opposition. Une opposition qui espère encore faire plier le président Maduro et empêcher l'élection d'une assemblée constituante prévue dimanche prochain.
Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé hier l'interdiction pour les transgenres de travailler pour l'armée américaine. Une décision qui est aussi une manière de détourner l'attention de ses problèmes à gérer les liens entre la Maison-Blanche et la Russie.
La Pologne pourrait être sanctionnée durement par la Commission européenne si elle persiste à vouloir faire passer pendant l'été ces lois remettant en cause l'indépendance de la justice. Bruxelles pourrait aller jusqu'à interdire la Pologne de vote.
En France, les députés ont voté hier l'interdiction pour les ministres d'employer des membres de leur famille en tant que collaborateurs, une mesure phare du projet de loi sur la moralisation de la vie publique.
Et puis les organisations de droit au logement s'organisent justement. Elles appellent à une manifestation à la rentrée contre la décision du gouvernement d'abaisser les APL de 5 euros. Elle met ses dernières forces dans la bataille. L'opposition vénézuélienne n'est pourtant pas sûre de la remporter. Mais la grève générale entamée hier continue aujourd'hui avant. Demain, un grand défilé contre les élections organisées dimanche par le président Maduro. Élection qui vise à renforcer son pouvoir via une nouvelle assemblée constituante. Ces élections auxquelles seraient opposés 70% des Vénézuéliens, selon des instituts de sondage. Hier encore, 3 personnes sont mortes pendant des heures avec la police dans différents endroits du pays. À Caracas, le reportage de notre envoyée spéciale, Sandrine Etoa-Andeg.
Ricardo a mis un vieux jean et un casque de moto au lieu de sa robe d'avocat habituelle.
Là, nous sommes sur l'un des principaux axes de Caracas, l'avenue Francisco de Miranda. Comme vous pouvez le voir, il n'y a personne, parce qu'on suit cet appel à la grève.
L'opposant surveille l'un des barrages matérialisé par un tas d'ordures en feu ou une cordelette. Nous sommes dans la municipalité de Chacao, à l'est de Caracas, bastion de l'opposition. Les rues sont désertes, les commerces et les restaurants sont fermés, il n'y a pas de circulation, et ça va continuer, prévient-il.
Je vais rester ici. Je suis contre cette assemblée constituante. Pour moi, c'est un piège du gouvernement pour rester indéfiniment au pouvoir. Et s'ils vont jusqu'au bout, ça va se retourner contre eux. Parce que le peuple rejette ce vote illégal que Maduro veut nous imposer.
Un message peu entendu au centre et à l'ouest de la capitale plus populaire. Ici, on retrouve les embouteillages monstres et les files d'attente devant les supermarchés.
Sandrine Etoa-Andeg. La colère de Moscou et l'inquiétude de la Commission européenne après le vote de nouvelles sanctions par le Congrès contre la Russie. Le vote remonte à mardi. La Chambre basse du Congrès américain a adopté à une écrasante majorité l'adoption de sanctions qui, en résumé, s'appliqueraient à toute entreprise travaillant sur des pipelines russes. Or, c'est le cas de nombreuses entreprises européennes, notamment françaises et allemandes. Ces sanctions doivent être approuvées par Donald Trump, qui n'y est pas favorable. Mais l'unanimité sur le sujet est telle au Capitole que les parlementaires pourraient bien passer outre un éventuel veto. Et c'est dans ce contexte que la dernière décision en date de Donald Trump est donc analysée, à savoir sa décision d'interdire aux personnes transgenres le droit d'entrer dans l'armée américaine. Il l'a annoncé via Twitter en mettant en cause le coût énorme des frais médicaux que cela entraînerait. Une décision analysée donc par certains comme une lubie, par d'autres comme une façon de détourner l'attention de ses problèmes internes liés à l'ingérence russe dans la campagne. Les précisions depuis Washington de Philippe Randet.
Entre 2 tweets d'insultes à son ministre de la Justice, Donald Trump a donc tranché « Les personnes transgenres ne pourront pas servir dans l'armée américaine ». Concrètement, sur près d'un million et demi de militaires en activité, les transgenres ne représentent que quelques milliers de personnes. Mais Donald Trump a évoqué le fardeau des coûts médicaux énormes. Symboliquement, la décision est un moyen de rompre avec la politique de Barack Obama. C'est aussi clairement un clin d'œil à son secrétaire de la Défense, Jim Mattis, qui a été consulté sur le sujet et qui n'était pas pressé d'ouvrir le recrutement militaire aux personnes transgenres. Donald Trump en difficulté dans les sondages, qui veut aussi faire plaisir à sa base électorale. Cette mesure est un moyen de rassembler notamment les vétérans et les millions de chrétiens conservateurs qui ont voté pour lui. Et puis en grand maître du suspense et de la diversion, le 45e président des États-Unis sait pertinemment que cette décision surprise va créer la polémique. L'ancien vice-président Joe Biden a déjà réagi, estimant, je cite, que tout patriote qualifié pour servir dans l'armée doit pouvoir le faire.
Philippe Rondé, où il est encore question de sanctions, cette fois de la Commission européenne contre un des membres de l'Union, la Pologne. Bruxelles a durci le ton hier contre les réformes de la justice que souhaite adopter Varsovie et elle menace de déclencher une procédure sans précédent qui serait en l'occurrence de priver la Pologne du droit de vote au sein de l'UE si le pays tente de faire passer ses réformes pendant l'été. À Bruxelles, les précisions de Quentin Dickinson.
Dans un premier temps, la Commission européenne fait parvenir aujourd'hui au gouvernement polonais une lettre de recommandation, la troisième en 18 mois, par laquelle elle souligne les conséquences néfastes pour l'indépendance de la justice et pour l'état de droit en Pologne des quatre lois de réforme en cours d'élaboration à Varsovie. Les autorités polonaises doivent y répondre dans un délai d'un mois. Dans un second temps, si l'on devait assister à la promulgation du projet de loi qui autorise la révocation ou la mise à la retraite d'office des magistrats de la Cour suprême par le ministre de la Justice, qui cumule déjà ces fonctions-là avec celles de procureur général, alors la Commission européenne estimerait fondé le déclenchement de l'article 7 du traité de Lisbonne. Cette disposition permet de suspendre tout ou partie des prérogatives qui sont celles de chaque État membre de l'UE dans le cas de violation flagrante des principes éthiques et des valeurs démocratiques qui fondent le projet européen. Une lettre formelle de mise en demeure serait immédiatement expédiée au chef du gouvernement polonais.
Quentin Dickinson.
En France, c'est sans doute la mesure la plus emblématique de la loi sur la moralisation de la vie publique, l'interdiction pour un certain nombre d'élus d'employer un membre de leur famille parmi leurs collaborateurs.
Hier soir, la mesure a été votée pour les membres du gouvernement. Elle devrait l'être aujourd'hui pour les députés et les élus locaux. Une mesure qui est une conséquence directe de l'affaire Fillon pendant la campagne présidentielle. Le reportage hier à l'Assemblée d'Antoine Sabag.
Le débat a commencé depuis à peine 20 secondes et le nom qui est dans toutes les têtes est cité par la députée apparentée FN, Emmanuelle Ménard.
Qui aujourd'hui dans cette assemblée n'a pas en tête le feuilleton de la chute de la famille Fillon ?
Hasard des prises de parole, c'est la très filloniste Annie Genevard qui lui succède et forcément le ton est différent.
Mais je regrette une chose, c'est que finalement nous légiférions sous l'effet d'une action médiatique qui a chauffé à blanc l'opinion publique.
Les insoumis, les socialistes, la plupart des républicains sont favorables à l'interdiction des emplois familiaux. C'est aussi le cas des députés En Marche, à l'exception notable de François-Michel Lambert.
À cause de quelques cas tout à fait isolés, nous, élus, nous devrions être tous targués de complices. Oui à la réforme, mais pas n'importe comment, pas en interdisant aveuglément sous la pression des médias des fantasmes autour de la probité des élus.
Et pour le député LR Julien Aubert, cette loi qui interdit les collaborateurs familiaux se trompe de cible.
Le vrai sujet, ce sont les emplois fictifs, mais on comprend bien que demain, avec l'application de cette loi, je pourrais continuer à ne pas faire travailler quelqu'un qui n'est pas de ma famille de manière fictive. Par contre, je ne pourrais pas employer quelqu'un qui travaille et qui serait de ma famille.
Merci. Et les débats vont continuer aujourd'hui avec cette fois la question de l'interdiction des emplois familiaux pour les députés et les élus locaux.
Et puis au rang des annonces du matin, celle-là communiquée il y a quelques minutes par Matignon à l'AFP, à partir du 1er septembre, toute nouvelle norme devra être compensée par la suppression de deux normes existantes ou, lorsque c'est impossible, par leur simplification. C'est la concrétisation de la volonté des Emmanuel Macron durant sa campagne de simplification administrative. Son programme prévoyait initialement de ne pas rajouter de normes nationales aux normes européennes dans le secteur agricole. Un principe qui s'élargit donc aux deux pour un, deux normes supprimées pour une ajoutée. C'était aussi un engagement de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. La réduction de 5 euros des APL, il en a été également question hier à l'Assemblée lors des questions au gouvernement. Les députés insoumis de la France Insoumise ont brandi 5 euros de conserve et autres paquets de pâtes pour dénoncer la politique budgétaire du gouvernement. Ça, c'est pour le spectacle. Pendant ce temps, les associations de droit au logement notamment s'organisent pour protester contre cette mesure. Fiona Mogadam.
Difficile de mobiliser en plein milieu des vacances d'été, alors l'association Droit au logement appelle à manifester à la rentrée, tout comme l'Union nationale des retraités et des personnes âgées. Pour la Confédération nationale du logement, l'action n'attend pas. La CNL a décidé de lancer une pétition pour demander au président de la République de retirer cette mesure. Le racket des allocataires doit cesser, dit la Confédération, qui va aussi envoyer de faux billets de 5 euros à l'Élysée. Le président de la CNL et dit Jacques Mar.
On veut en fait que chacun puisse signer un billet de 5 euros symbolique pour dire ben, « Monsieur le Président, oui, pour nous, 5 euros, c'est important, c'est pas quelque chose de négligeable. Il faut vraiment arrêter de taper sur cette allocation qui est une allocation solvatrice pour les locataires. Et en plus de ça, les familles qui ont véritablement besoin de cet argent, c'est encore ça en moins qu'elles vont avoir pour vivre par mois, on va accroître les difficultés des familles les plus modestes.
Mais le gouvernement se défend, lui, de toute attaque envers les plus défavorisés, comme l'a expliqué hier devant les députés le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin.
Les économies que nous allons faire, c'est l'augmentation de la lutte handicapée de 100 euros avec madame la secrétaire d'État, ce qui n'a jamais été fait. C'est l'augmentation du minimum vieillesse de 100 euros par mois. C'est la suppression de la taxe d'habitation. C'est 260 euros pour un ouvrier au SMIC grâce à la suppression des cotisations. Et le meilleur moyen de faire une politique sociale, c'est retrouver du travail pour tout le monde.
Dans un premier temps, la baisse de 5 euros des APL doit permettre au gouvernement une économie de 32 500 000 euros par mois avant une réforme globale des aides au logement prévue à l'automne.
Fiona Mogadam, 4 jours ou 4 jours et demi, désormais les communes ont le choix. On parle bien ici des rythmes scolaires qui ont subi 3 réformes récentes. En 2008, sous Nicolas Sarkozy, la semaine de 4 jours avait été instituée. Sous le quinquennat de François Hollande en 2013, le gouvernement avait opté pour la semaine de 4 jours et demi. Aujourd'hui, nouveau changement, puisque le principe, c'est désormais la liberté de choix. Certaines communes ont déjà fait savoir qu'elles opteraient dès cette rentrée pour la semaine de 4 jours. Pour les autres, c'est encore l'embarras. Écoutez à ce propos Agnès Lebrun, maire Les Républicains de Morlaix et surtout vice-présidente de l'Association des maires de France. Elle est interrogée par Ilan Malka.
Sur la méthode, nous avons regretté qu'il y ait une certaine précipitation puisque ça a mis quand même les collectivités dans l'embarras. Les rentrées scolaires ne se préparent pas au mois d'août, les rentrées scolaires se préparent à la fin du printemps. Et selon les collectivités, mais qu'elles soient petites ou grandes, elles avaient préparé leur rentrée et finalement cette possibilité qui était offerte et qui a été soumise aux collectivités alors même que le décret n'était pas paru d'ailleurs. Ça a évidemment mis dans un certain embarras les collectivités, mais au-delà de l'embarras, je crois que surtout cette possibilité a été traduite par une surréaction parce que les collectivités se sont dit, après nous avoir imposer les choses après nous avoir fait souffrir, puisqu'en 2016, nous avions fait une enquête, 70% des communes indiquaient rencontrer encore des difficultés. Tout d'un coup, on leur dit, ben, si vous voulez vous emparer de votre liberté, prenez-la. Et la question est aussi de savoir si la liberté, c'est finalement l'autorisation de faire le contraire de ce qui a été imposé. Pour autant, 37% des communes sont revenues à la semaine de 4 jours, ce qui signifie bien que cela répondait à un véritable besoin.
Voilà, Agnès Lebrun, vice-présidente de l'Association des maires de France. Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Vous êtes donc ministre de l'Éducation nationale, invité des matins. Une réaction peut-être à cette réaction, donc du point de vue des communes. Hein, est-ce qu'on n'aurait pas dû simplement laisser à cette dernière réforme le temps de se faire et donc le temps aux communes de s'adapter peut-être ?
C'est intéressant d'analyser cette interview. Vous écoutez la dernière phrase et vous la comparez à tout le reste du discours. La dernière phrase vous dit, c'est bien que ça répondait à un besoin. Et tout le discours précédent consiste à vous expliquer pourquoi c'est une grande, ça a posé plein de problèmes.
Elle critiquait la méthode,
mais
la précipitation
c'est les mêmes
maires, peut-être.
Si vous voulez, qui, tout ça ne vient pas de nulle part. Pendant la campagne électorale, on a entendu, et même avant la campagne électorale, de nombreux maires se plaindre du fait que la semaine de 4 jours et demi avait été imposée, était venue comme une sorte de chape uniformisante sur l'ensemble de la France, avec des effets positifs dans certains cas, des effets très contre-productifs dans d'autres. La France entière a entendu ça. Le président de la République a pris ça en compte dans la campagne électorale, et très clairement, c'est pas une surprise, ça faisait partie de son programme, et j'ai mis en œuvre ce programme en arrivant, on a dit, on laissera le choix. C'est la liberté, c'est toujours la même philosophie, l'idée qu'on responsabilise les communautés éducatives, en l'occurrence, pour aller vers ce qu'il y a de meilleur pour eux. Et une commune de montagne, c'est pas la même chose que la ville de Paris, ou commune rurale, la même chose que la ville de Morlaix. Donc c'est à cela aussi qu'on doit s'habituer, c'est-à-dire à prendre ses responsabilités. Et c'est comme ça que d'ailleurs 37% des communes ont fait ce choix. Elles ont en quelque sorte voté avec leurs pieds. Moi-même, je n'incitais pas à aller vers 4 jours. J'ai même beaucoup dit que c'était bien d'attendre pour ceux qui le souhaitaient, de le faire plutôt à la rentrée 2018 ou même de ne pas le faire. Ceux qui restent à 4 jours et demi ont de très bonnes raisons de ne pas le faire et c'est très bien. Maintenant, il n'y a strictement aucune raison de tenir un discours d'angoisse, alors même qu'au contraire, on a desserré un carcan. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'on a abîmé une situation qui allait bien. J'ai trouvé une situation extrêmement hétérogène, avec plus de 20% des communes, par exemple, qui ont libéré le vendredi après-midi, des endroits où on ne sortait pas à la même heure selon les jours, des problèmes importants pour les familles liés à cela, des bienfaits peu démontrés vis-à-vis des enfants dans beaucoup de cas. Bref, une situation avec des aspects positifs et des aspects négatifs. Nous essayons maintenant de garder les aspects positifs et de remédier aux aspects négatifs.
Très bien, merci beaucoup. Vous aurez peut-être l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie des matins. Presse journal, le temps de ce jeudi pour terminer. Si le sud-est est toujours sous le soleil et le vent, le ciel s'éclaircit un peu dans le nord cet après-midi, mais aussi dans le sud-ouest et jusqu'aux Alpes. Le ciel restera chargé de la Gironde à l'Alsace-Lorraine. Les températures sont stables. Il fera entre 11 et 18 degrés ce matin, jusqu'à 21 en bord de Méditerranée. Cet après-midi, comptez de 22 à 18 du nord au sud, des pointes à 35 dans le Var.
Merci Anne Lorchouin, à tout à l'heure.